Alors, bonjour à toutes et à tous et merci d'assister à cette dernière séance du séminaire Flaubert de cette année consacrée au thème de l'insociable sociabilité. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphanie Champeau et je la remercie d'avoir accepté notre invitation. Stéphanie Champeau est maîtresse de conférences en littérature française à l'Université de Rouen. Ses recherches portent sur les Goncourt, Balzac, sur le réalisme et le naturalisme. Elle a publié chez Champion La notion d'artiste chez les Goncourt, paru en 2000, et elle est l'éditrice de Manette Salomon en folio, de René Mauprin chez Classique Garnier. Elle a aussi coédité avec Sylvain Léda La cousine bête de Balzac chez Garnier Flammarion. Et elle a publié de nombreux articles sur Flaubert. Elle va revenir sur les questions de sociabilité littéraire et d'amitié littéraire que nous avions abordées lors de la journée d'études de décembre, dont les actes sont parus
Je
depuis dans
n'entends
la...
plus.
Ah, pardon, vous m'entendez pas là?
Moi, j'entends.
C'est bon, c'est bon.
Merci.
Donc, elle va revenir, je disais, sur les questions de sociabilité et d'amitié littéraire hein, qu'on a un petit peu abordées lors de la journée d'études de décembre. Et je signale au passage que cette journée d'études a fait l'objet d'actes qui ont été publiés dans la revue Flaubert, Critique et Génétique. Et elle va nous parler aujourd'hui du lien entre Flaubert et les Goncourt. Sa communication a pour titre une très belle citation de Voltaire, je crois. Mon Dieu, gardez-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je charge son exemplier, donc que vous pourrez télécharger dans le chat. Voilà. Est-ce que tout le monde a bien accès à l'exemplier? C'est bon? Voilà, bah Stéphanie, je te laisse la parole.
Merci beaucoup, Juliette. Je précise tout de suite pour ne pas vous prendre en traître que ma communication est un petit peu longue. Elle devrait faire autour d'1 h 05. Hein, je préfère vous le dire d'avance. 1 h 05 maximum, 1 h 10. Vous m'entendez bien là ou pas?
Oui, très bien.
Ah, d'accord. Alors, dans La douceur de la vie, 18e volume des Hommes de bonne volonté, Jules Romain définit assez drôlatiquement le genre du journal comme, je cite, l'embuscade d'un monsieur caché dans les pages de son journal qui guette, pour leur tirer dessus avec une hausse repérée, ses amis, ses rivaux, ses ennemis, passant à découvert sur les chemins de l'avenir. C'est avec une remarquable constance qu'au long de leur journal, les Goncourt tirent sur leurs ennemis comme sur leurs amis, et sans doute bien plus encore sur leurs amis, au point qu'on pourrait leur appliquer, ou plutôt appliquer à leurs amis, le célèbre mot attribué à Voltaire, qui serait en fait une citation. Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, je m'en charge. Parmi ses amis ou meilleurs ennemis qui auraient bien fait d'invoquer le secours divin, Flaubert est en première place. L'auteur de Madame Bovary a en effet certainement été, des connaissances des Goncourt, l'un des mieux servis au fil du journal en critiques et dénigrements variés qui n'ont jamais désarmé, même post-mortem. C'est à une réflexion sur ces critiques et dénigrements et à ce qu'il suggère de la relation des Goncourt à Flaubert que s'attachera ma présente communication. Alors, la relation des Goncourt à Flaubert, plus que les relations des Goncourt et de Flaubert, je m'explique, la disproportion est telle entre les propos des uns sur l'autre et de l'autre sur les uns, Flaubert n'ayant pas tenu de journal et ayant été certainement au fond beaucoup moins obsédé par les Goncourt qu'ils ne l'ont été par lui, qu'il m'était impossible de construire une réflexion qui aurait envisagé de façon équilibrée les deux aspects de la question. Alors, pour en finir d'emblée avec cet aspect du problème, je veux dire la façon dont Flaubert lui-même considérait les deux frères. Flaubert évoque rarement dans ses lettres les Goncourt. Peu porté de sa nature au commérage, quand il fait allusion à eux en tant que personne, c'est toujours par une mention factuelle très rapide et sans jugement, même si une ombre de dérision apparaît quand il les désigne à un tiers comme les bichons. Quand Flaubert évoque auprès d'un tiers cette fois les œuvres des Goncourt, le ton est en général d'un véritable intérêt et d'une réelle estime, s'il n'est pas celui d'une admiration éperdue. Flaubert fait l'éloge en particulier de Sœur Philomène, dont Louis Bouilhet, pardon, on le sait, avait fourni la donnée de départ aux deux frères, de Germinie Lacerteux, de Manette Salomon, roman à propos duquel il paraît avoir été sensible à l'injustice de la critique à l'égard des Goncourt. À l'exception des frères Zamgano, Flaubert sera moins enthousiaste pour les romans écrits par le seul Edmond, si l'on en croit par exemple quelques lignes sur La fille Elisa, roman qu'il juge, je cite, sommaire et anémique, et très en dessous de L'Assommoir. jugement qui aurait fait bondir Goncourt s'il l'avait connu, être comparé à Zola, qu'il accusait, on le sait, de les plagier, son frère et lui, et d'accommoder à la sauce d'un public médiocre pour les rendre plus affriolants et plus rentables tous leurs sujets. Donc, être comparé à Zola était l'insulte suprême. En dehors de ces quelques allusions, il ne semble pas y avoir d'autres traces de la façon dont Flaubert a considéré les Goncourt à la fois comme personne et comme écrivain. C'est donc par les lunettes des Goncourt exclusivement que je me suis résolue à envisager la question de leur relation avec Flaubert. Flaubert qui se trouvait de fait en concurrence, au moins jusqu'à un certain point, avec eux dans le champ littéraire. Tous les trois étaient romanciers, Goncourt et Flaubert étaient strictement de la même génération, et sans vouloir naturellement les enfermer dans une taxinomie qui est en partie du moins une illusion rétrospective, disons que leurs conceptions en matière de poétique du roman se rejoignaient sur un grand nombre de points. Une réflexion de Goncourt, datée de 1876, témoigne de ce sentiment qui s'était bien sûr forgé et consolidé au fil du temps d'avoir en partage avec Flaubert une même poétique. Je cite, et sur l'exemplier, c'est donc la citation numéro 1, « La littérature inaugurée par Flaubert et par les Goncourt pourrait, ce me semble, se définir ainsi. Une étude rigoureuse de la nature dans une prose parlant la langue des vers. » Nolens Volens, Flaubert et les Goncourt étaient donc dans une situation de compétition, puisqu'ils occupaient en quelque sorte un même créneau au sein du champ littéraire. Pour le dire familièrement, il leur fallait sans cesse faire attention à ne pas se marcher sur les pieds, à préserver leur propre espace et à ne pas empiéter sur celui du concurrent. Ils pouvaient se trouver par exemple très concrètement en situation de compétition auprès des éditeurs, ce qu'on perçoit fugitivement dans la correspondance de Flaubert, par exemple dans une lettre à Zola, où Flaubert, parlant de Charpentier qui lui avait promis une belle édition de son Saint-Julien, note peut-être avec une pointe d'amertume « L'année dernière, il m'a lâché pour la Marie-Antoinette de Goncourt ». La situation de concurrence donc est bien réelle et prend des formes très concrètes. Dans le même temps, une certaine forme de solidarité s'imposait à Flaubert et au Goncourt, puisqu'ils se trouvaient, si j'ose dire, dans le même bateau, à la fois par rapport à des confrères ne partageant pas leurs conceptions esthétiques, et par rapport au monde des gentils, ou le monde des Pékins, si on préfère cette image, bref, le monde des bourgeois qui ne pratiquent pas la littérature. Étant donné donc que j'adopterai le point de vue des Goncourt exclusivement, il ne pourra ici pour moi être question d'une inaccessible et chimérique objectivité dans l'évocation de leur relation à Flaubert, mais plutôt de la façon dont les deux frères se sont représentés Flaubert, à la fois en tant que personne et en tant qu'écrivain. Au reste, Edmond Goncourt est le premier à avoir revendiqué l'absence d'objectivité de son frère et lui, s'il a en revanche clamé leur sincérité, dans sa célèbre préface au journal écrite en 1872, préface où il explique, on le sait, que leur démarche a été, je cite, c'est la citation 3, de représenter l'ondoyante humanité dans sa vérité momentanée. Les deux derniers mots sont soulignés, et où il observe qu'ayant portraituré les personnes rencontrées au fil du temps, sans souci d'un portrait en pied sous spéciet d'anitatis, ils ont été naturellement amenés, son frère et lui, à en livrer des représentations très changeantes, parfois contradictoires. On remarquera à contrario cependant que le portrait qui se dégage de Flaubert, au fil des passages le concernant sur plus de 20 ans, paraît d'une remarquable cohérence. Si Goncourt reconnaît d'autre part avoir pu céder ainsi que son frère à l'injustice et à la prévention en, je cite, « créature passionnée, nerveuse, maladivement impressionnable et par là quelquefois injuste », il affirme qu'ils n'ont, je cite encore, « jamais menti sciemment sur le compte de ceux dont ils parlent ». Ma démarche sera la suivante. Dans un premier temps, je rappellerai les modalités principales et soulignerai l'ambivalence de ces relations entre frères et ennemis, ambivalence qui tient au grand besoin que les Goncourt ont de leur amitié avec Flaubert, alors que cette amitié est en partie minée par une compétition qui ne s'avoue pas clairement. Donc compétition pour le lectorat, donc compétition pour l'éditeur, compétition pour avoir les faveurs des confrères hommes de lettres qui accepteront de faire un papier sur l'œuvre récemment publiée ou rééditée, et même, plus inavouée sans doute, compétition pour les honneurs. Cette compétition latente amène les Goncourt, et ce sera l'objet de ma deuxième partie, à un dénigrement féroce, un véritable portrait charge de la personne de Flaubert, au motif en particulier qu'elle ne serait pas à la hauteur de son œuvre. Mais cette appréciation ne les empêche nullement, et ce sera le troisième temps de ma réflexion, de s'en prendre avec une certaine acrimonie, ou une acrimonie certaine, à cette dernière, donc à l'œuvre même de Flaubert. Je précise que ces trois parties ne sont pas d'une ampleur équivalente, la première étant de loin la plus longue et la troisième la plus courte, cela pour rassurer ceux qui inquiéteraient la longueur de ma première partie. Donc j'arrive justement à ma première partie. Flaubert et les Goncourt ont entretenu des relations relativement étroites et sur une durée importante, à savoir plus d'une vingtaine d'années en ce qui concerne l'aîné des deux frères. Il semble, d'après le journal des Goncourt, qu'ils se soient rencontrés pour la première fois au bureau de l'artiste le 11 avril 1857. Leur relation devient plus étroite à partir du 11 mai 1859, date de la première visite de Flaubert chez eux, et de janvier 1860, date du premier billet connu de Flaubert aux deux frères pour accepter leur invitation à dîner le 12 janvier, dîner raconté en détail par le journal. Et leur amitié durera avec ses hauts et ses bas, ses périodes de relations plus intenses et ses périodes plus distendues, jusqu'à la mort de Flaubert en mai 1880. Leurs lieux de sociabilité littéraire sont bien connus, donc le bureau de l'artiste, donc, où ils se sont rencontrés, semble-t-il, pour la première fois, mais aussi souvent par la suite. Les dîners chez le célèbre restaurateur Magny, rue Contrescarpe-Mazet, dîner lancé en novembre 1862. Puis plusieurs années après la mort de Jules, le dîner des cinq, ou dîner des auteurs sifflés, réunissant dans divers restaurants Flaubert, Goncourt, Tourguenieff, Daudet et Zola. Il y a aussi les lieux de spectacle, l'opéra, les premières où l'on va notamment pour encourager les amis, sans oublier naturellement les dimanches de Flaubert lors de ses séjours parisiens, après-midi de conversations enfiévrées qu'Edmond voudra faire revivre plus tard avec son grenier de la maison d'Auteuil. Doivent être aussi mentionnées les visites des Goncourt à Croisset et les réceptions chez eux ou chez des relations communes comme les festins dominicaux de la présidente Madame Sabatier, les soirées dans le salon de la princesse Mathilde, rue de Courcelles, chez qui les Goncourt sont reçus à partir d'août 1862 et Flaubert de mai 1863, et plus tard les séjours dans la propriété de l'Altesse à Saint-Gratien. En revanche, les Goncourt ne seront jamais conviés aux séries de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie à Compiègne, où Flaubert, en revanche, sera invité une fois du 10 au 16 novembre 1864 dans la première série, ni même aux Tuileries, où Flaubert sera invité à plusieurs reprises, notamment pour le souper et le bal offert au tsar et au roi de Prusse le 10 juin 1867. Ces relations entre Flaubert et les Goncourt n'ont pas toujours eu la même intensité. Relativement fréquentes et suivies dans les premières années grâce au dîner Magny, elles ont connu une sérieuse éclipse après la mort de Jules de Goncourt en 1870, avant de repartir entre le survivant des deux frères et Flaubert à partir de la création du dîner des auteurs sifflés en 1874. Elle se raréfie ensuite de nouveau au fur et à mesure qu'Alphonse Daudet prend un peu auprès d'Edmond la place de son frère défunt, puis connaissent une forme d'apothéose avec le fameux dîner au restaurant Trappe près de la gare Saint-Lazare, qui réunit, on le sait, le 16 avril 1877, les jeunes auteurs naturalistes autour de Flaubert, Goncourt, Zola et Charpentier, sorte de consécration de l'école réaliste et naturaliste dont Edmond écrit ceci dans son journal, je cite, et c'est la citation numéro 4. Ce soir, Huysmans, Séard, Hénique, Paul-Alexis, Octave Mirbeau, Guy de Maupassant, la jeunesse des lettres réalistes, naturalistes, nous a sacré, Flaubert, Zola et moi, sacrés officiellement les trois maîtres de l'heure présente dans un dîner des plus cordiaux et des plus gais. Voici l'armée nouvelle en train de se former. Enfin, la visite de Goncourt à Croisset le dimanche de Pâques 28 mars 1880, en compagnie de Daudet, Zola et Charpentier, constitue le point d'orgue de cette relation quelques semaines avant la mort subite de Flaubert le 8 mai 1880. Avec leurs aléas, leurs périodes fastes et leurs périodes moins fastes, ces relations avec Flaubert ont revêtu un caractère essentiel pour les deux frères. Revient en effet constamment dans leur journal le thème de la solitude de l'artiste et de l'homme de lettres au XIXe siècle, ou, pour reprendre un terme qu'ils affectionnent, celui de son ourserie. Ourserie forcée, précisent-ils, qu'ils opposent à la vision, sans doute en grande partie fantasmée et embellie, qu'ils ont de la vie des hommes de lettres au XVIIIe siècle, se délassant le soir du labeur quotidien dans l'intense sociabilité des salons où ils retrouvaient l'élite des penseurs du temps et où leurs assauts d'esprit faisaient des étincelles. Les Goncourt ont un besoin vital des relations avec leurs confrères, et notamment de cette modalité des relations qu'est la conversation avec des pairs, autour ou non d'un repas. Ainsi, après un séjour de plusieurs semaines près de Fontainebleau pour la préparation de Manette Salomon, avoue-t-il, c'est la citation 5, Sortant de cette solitude de la pensée et de la parole de Krebs, nous retombons avec plaisir dans ce parloir de Mani. Mais ce besoin essentiel chez eux de conversation n'est qu'insuffisamment comblé. La sociabilité littéraire, intellectuelle, artistique ne tient pas dans leur vie toute la place qu'ils souhaiteraient lui voir prendre. Et cette déficience tient selon eux à des causes générales, à la situation de l'homme de lettres dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Bien loin de l'image d'Épinal, si j'ose dire, de l'artiste et du bohème romantique, l'homme de lettres de leur temps ressemblerait beaucoup plus, selon eux, à un artisan confiné dans la solitude de son atelier. Je cite, c'est la citation 6. « Oh, l'amusante erreur! Ces hommes, que le bourgeois voit toujours en fête, en orgie, vivant le double des autres hommes, n'ayant point une soirée à donner à l'amitié et à la société. Ouvriers solitaires et renfoncés, vivant loin de la vie avec une pensée et une œuvre. » Le long passage du journal du 11 mai 1859, où les Goncourt racontent la première visite de Flaubert chez eux, fait le constat désenchanté de cette solitude de l'homme de lettres du XIXe siècle et cherche à fournir des explications d'ordre historique, politique, sociologique, explications qui ne sont pas sans rappeler les analyses d'un Tocqueville dans sa démocratie en Amérique. Les Goncourt viennent d'évoquer la vie d'ermite de Flaubert, passant, je cite, 4 ou 5 mois à Paris par an, n'allant nulle part, voyant seulement quelques amis, et de souligner, je cite, la vie douce que nous menons tous, Saint-Victor comme lui et nous comme lui. Et les Goncourt de généraliser, c'est la citation numéro 7. Cette ourserie forcée et que rien ne vient rompre de l'homme de lettres du XIXe siècle est étrange quand on la compare à la vie toute mondaine en pleine société et criblée d'avances, d'invitations, de relations de l'homme de lettres du XVIIIe siècle, d'un Diderot ou d'un Voltaire à qui le monde de son temps allait rendre visite à Ferney ou des gens moindres, des auteurs en vogue, d'un Crébillon fils, d'un Marmontel. La curiosité de l'homme, les avances à l'automne, n'existe plus depuis la fondation de la bourgeoisie, depuis que l'égalité a été proclamée. L'homme de lettres ne fait plus partie de la société, il n'y règne plus, il n'y entre même plus. Dans tous les hommes de lettres que je connais, je n'en connais pas un seul allant dans ce qu'on appelle le monde. À cela, à ce changement, beaucoup de causes. Quand la société avait des ordres, une hiérarchie, le seigneur, pénétré de la conscience et de l'orgueil de son rang, ne jalousait point l'homme de lettres. Il se faisait familier avec lui parce que le talent n'empiétait point sur son rang et ne régnait point sur sa vanité. Puis dans ce siècle de spleen, dans ce siècle à l'image de Louis XV, siècle où la noblesse trouvait la vie toute faite et l'épuisait vite, le vide, le néant de la tête était grand. La distraction d'un homme d'esprit, le plaisir d'une conversation était prisé et estimé. Un homme de lettres était un spectacle rare dont la verve et l'intelligence chatouillaient les esprits délicats et blasés. L'hospitalité familiale, la réception amicale, les marques flatteuses ne semblaient point à ce monde payer trop cher le plaisir de la compagnie d'un écrivain. Mais la bourgeoisie a rayé cela. La grande passion de la bourgeoisie est l'égalité. L'homme de lettres la blesse parce qu'un homme de lettres est plus connu qu'un bourgeois. Il y a rancune sourde, jalousie secrète. Puis la bourgeoisie, grosse famille de gens actifs faisant des affaires, des enfants, n'a pas besoin d'un grand commerce d'esprit. Le journal lui suffit. L'homme de lettres du XIXe siècle serait ainsi, pensent les Goncourt dans leur humeur morose et désenchantée, beaucoup plus solitaire, isolé, retranché dans sa forteresse et dans les quatre murs de son cabinet de travail que les hommes de lettres de l'Ancien Régime. Les écrivains de la société révolutionnée seraient en quelque sorte des artistes de l'enclos, du solipsisme, du tête-à-tête avec soi-même, par opposition aux artistes et écrivains de l'ouvert, de la relation, du dialogue qu'auraient été ceux du XVIIIe siècle. Il n'est pourtant que de voir la fréquence de leurs rencontres avec des confrères écrivains, avec des penseurs, des savants et des artistes, pour mesurer combien cette représentation doloriste ne reflète pas la réalité sociologique objective et combien elle hérite du mythe romantique de l'artiste prophète solitaire et rejeté par la foule, de l'artiste ascète, prêtre, martyr et Christ de son œuvre. Il n'en demeure pas moins naturellement que le travail de création littéraire est d'abord un travail solitaire et exige une forme de repli sur soi et de longues heures de claustration qui peuvent expliquer ce sentiment de solitude si souvent exprimé par les deux frères. Pour combler partiellement cette solitude liée à la fois à la nature de leur travail et selon eux, donc à leur époque, en particulier on l'a vu à l'indifférence du public bourgeois à l'égard de l'homme de lettres, les Goncourt, comme Flaubert et comme d'autres confrères, aiment se réfugier en pensée dans un autre temps, dans une époque fantasmée et idéalisée. Le XVIIIe siècle de la Régence et de Louis XV pour les Goncourt, l'Antiquité pour Flaubert. La rêverie solipsiste sur cette époque disparue apparaît un peu comme une tentative de combler leur solitude et de pallier les failles de la sociabilité. Ce serait une forme de sociabilité rêvée, de sociabilité fantasmée, décalée dans le temps, ce qu'exprime un beau passage du journal en décembre 1862. Je cite, et c'est la citation 8, « Le regret est l'homme. Rien ne signifie le caractère et surtout l'esprit d'un homme d'intelligence comme ses regrets, ses nostalgies du passé, ses regards en arrière, vers un paradis de son tempérament dans l'histoire. Flaubert regrette une grosse barbarie, un âge de force, de déploiement de nudité, une ère primitive et sadique, l'âge sanguin du monde, des batailles, des grands coups, des temps héroïques, sauvages, tatoués de couleurs crues, chargés de verroterie. Saint-Victor a toujours l'air d'avoir été chassé de la Grèce. Je saute quelques lignes. Nous, la Révolution nous a passés sur le corps. Il nous semble, quand nous nous tâtons à fond, être des émigrés du XVIIIe siècle. Nous sommes des contemporains déclassés de cette société raffinée, exquise, de délicatesse suprême, d'esprit enragé, de corruption adorable, la plus intelligente, la plus policée, la plus fleurie de belles façons, d'art, de volupté, de fantaisie, de caprice, la plus humaine, c'est-à-dire la plus éloignée de la nature que le monde ait jamais eue. Cependant, ce ressenti de solitude chez les Goncourt, il y a en effet un ressenti de solitude, comme il y a des températures ressenties qui ne recoupent pas forcément les températures exactes, et cette conscience d'un délitement des formes de sociabilité à leur époque ne sont pas seulement des représentations individuelles, des projections d'esprit chagrin. Ces représentations ont aussi un fondement objectif et s'expliquent, comme on l'a souvent montré, par les mutations considérables opérées dans la société française au cours du siècle, à la fois politiques, scientifiques, techniques et économiques, avec la naissance du capitalisme, le développement d'une culture de masse et ce qu'on a pu appeler la civilisation du journal. Dans cette société en pleine mutation, envahie par le commerce, la finance, les impératifs économiques, société si bien radiographiée par Balzac, dont ils sont des lecteurs fervents, les Goncourt, comme Flaubert, Baudelaire, Barbey d'Aurevilliers et tant d'autres, se sentent décalés et anachroniques, passablement has-been, comme on dirait familièrement aujourd'hui, ainsi que le résume la formule de Flaubert citée par le journal en mars 1862, « Je ne me sens plus contemporain ». Les Goncourt, eux aussi, ont le sentiment très vif, à la fois sans doute gratifiant sur le plan narcissique et très anxiogène, d'être avec quelques artistes seulement des survivants d'un monde antédiluvien, les seuls à être habités par un idéal d'art, de beauté, de gratuité, de perfection, totalement démonétisé à leur époque, les seuls témoins en quelque sorte d'un monde que le raz-de-marée capitaliste a englouti. Seuls témoins avec Flaubert, cependant, concède-t-il en août 1868, et c'est la citation 10 de l'exemplier. La pure littérature, le livre qu'un artiste fait pour se satisfaire, me semble un genre bien près de mourir. Je ne vois plus de véritables hommes de lettres, de sincères et honnêtes écrivains que Flaubert et nous. Notre trio mort, je ne vois plus guère qu'un tout petit manie en France tirant ses livres au petit nombre de lecteurs délicats et vraiment lettrés qui resteront, à 50 peut-être. Les moments ne sont pas rares, surtout après la mort de Jules de Goncourt, où une véritable complicité unit Edmond et Flaubert, ces artistes qui se perçoivent ainsi comme des artistes purs, comme des rescapés du monde d'avant, dans un véhément rejet de leur époque. Ainsi, lors d'un dîner à deux au Café Riche, à l'occasion du passage à Paris de Flaubert sur sa route vers Vendôme pour l'inauguration de la statue de Ronsard, ces deux lignes, où l'on perçoit fugitivement, la chose est assez rare pour mériter d'être signalée, une note d'autodérision chez Edmond. C'est la citation 11, « Nous causons de Ronsard ». Puis tout de suite, lui se met à hurler, moi à gémir, sur la politique, la littérature, les embêtements de la vie. Et la soirée s'achève dans une véritable communion en mélancolie, Flaubert parlant à Goncourt, je cite, de son profond ennui, de son découragement de tout, de son aspiration à être mort, et mort sans métempsycose, sans survie, sans résurrection, à être à tout jamais dépouillé de son moi. Et Goncourt de conclure, c'est la citation 12, en l'entendant, il me semblait écouter mes pensées de tous les jours. Ah, la belle désorganisation physique que fait même chez les plus forts, les plus solidement bâtis, la vie cérébrale. C'est positif, nous sommes tous malades, quasi fous, et tout préparés pour le devenir complètement. On le voit par les passages précédents, les Goncourt ont le sentiment de faire bloc, si j'ose dire, avec Flaubert, quand il est question de leur vocation, de ces exigences absolues et des conséquences implacables qu'elle peut avoir sur leur vie, la désorganisation physique, la maladie, le risque de folie, la mort. Les auteurs de Germinie Lacerteux ont eu surtout la conscience de se démarquer avec Flaubert de la plupart de leurs confrères par l'intransigeance de leur conception de la littérature et de la vocation d'écrivain. Intransigeance dans la conception de la littérature d'abord. Ainsi sont-ils, estimera Goncourt, les seuls dont les œuvres ne sentent pas le feuilleton, à la différence des œuvres de tant de leurs confrères. Je cite, c'est la citation 13, « Comment définir ce que je trouve chez Flaubert et chez moi et que je ne trouve pas chez Zola et Daudet ? Peut-être par ceci, on ne sent jamais le feuilleton chez nous deux. » Mais aussi intransigeance dans leur conception de la dignité de l'écrivain et dans leur refus de ce que les Goncourt appellent parfois les canailleries de la littérature. Ainsi, les deux frères soulagent-ils avec Flaubert en décembre 1868 leur colère d'apprendre que le fils de Gautier, Gautier le croisé romantique par excellence, Gautier l'étincelant polémiste de la préface de Mademoiselle de Maupin, donc que le fils de Gautier est entré au service de la police administrative de la presse parisienne, donc au service de la censure. Je cite, c'est la citation 14, nous avons plaisir à retrouver Flaubert et dans notre trio d'ours et de solitaires ensauvagés, nous soulageons nos mépris, nos indignations sur tous les abaissements présents, les misères des caractères, la déchéance des lettrés, la domesticité enfin avec laquelle un de nos maîtres et un ami que nous aimons compromet en lui la dignité de chacun de nous. On le voit bien par un tel passage, dès qu'un tiers entre en jeu, un tiers qui est un rival ou qui représente un danger par rapport au petit clan qu'ils forment avec Flaubert, les Goncourt témoignent d'un fort sentiment de solidarité avec leur ami. On le constate par exemple dans un autre passage où Goncourt s'indigne de, je cite, « l'ascension de la voyoucratie en littérature comme en politique » et de préciser, c'est la citation 15, « en vertu du goût imbécile de la France pour le petit théâtre bouffe, en vertu de la toute-puissance du petit journal, j'aime fils, ce néant crapuleux, a plus de chances de faire recevoir une pièce au théâtre français que Flaubert. Et Wolf, cette autre impuissance physique et intellectuelle, trouve plus facilement un éditeur que moi. Au dernier des derniers, les premiers rôles. Ça semble être la grande besogne ironique de l'heure présente. » On note aussi un fort sentiment de complicité avec Flaubert dans la guerre de génération qui se joue au sein du champ littéraire. Ainsi, quand Goncourt remarque que, je cite, c'est la citation 16, « à cette heure, il n'y a absolument que Flaubert et moi qui, lorsque nous donnons un travail à un éditeur, à une revue, à un journal, le donnons complètement fait et parachevé. » Et Goncourt d'ajouter cette précision où l'on sent poindre l'amertume à l'égard des jeunes, « tous nos autres jeunes confrères livrent une œuvre commencée que talonne et que hâte et que fait faire un peu à la diable la réussite de la copie qu'on réclame. » Un sentiment de complicité analogue apparaît dans l'opposition homme de lettres universitaire. Ainsi en témoigne un passage où les Goncourt s'irritent de l'attitude de Taine rencontrée dans la soirée. Je cite, c'est la citation 17. « Il me demande à moi comment se porte Monsieur Flaubert. Je l'ai trouvé fort de ce professeur, du normalien devenu un bourgeois, se carrant déjà dans une importance de haut fonctionnaire universitaire, parlant comme de son fauteuil futur de ministre. » On voit aussi s'exprimer dans le journal un fort sentiment de solidarité à l'égard de Flaubert, vivant ou mort d'ailleurs, à mesure que grandit l'audience de Zola. La joie de vivre, comme presque tous les romans de Zola, est ainsi l'objet d'une féroce critique de Goncourt qui reproche à Zola de fabriquer des personnages improbables et, je cite, c'est la citation 18, « sans vie commune, sans fréquentation avec les individus, sans connaissance intime de la matière humaine ». Et Goncourt de conclure faisant cause commune avec Flaubert, ça, ce n'est pas le travail de Madame Bovary, ce n'est pas le travail de René Mauprin composé avec une dizaine d'années de notes sur la jeune fille étudiée, ce n'est pas le travail de Germinie Lacerteux. La conscience d'être du côté de Flaubert dans une sorte d'opposition implicite entre les gens du monde et les purs esprits qui ne sont pas du monde, entre ceux qui sont dans la société et ceux qui sont aux marges, apparaît aussi quand les Goncourt ont le sentiment de faire tâche avec Flaubert au milieu d'un monde de bourgeois décorés, comme ils en fréquentent par exemple chez la princesse Mathilde. Non seulement eux-mêmes ne sont pas décorés, mais ils ont été persécutés, poursuivis en justice. Ainsi évoque-t-il la soirée du 21 janvier 1863. C'est la citation 19. « Flaubert est là, à côté de nous. tous trois, nous faisons un groupe d'originaux. Nous sommes à peu près les trois seuls non décorés. Et puis, je réfléchis encore, en nous voyant tous les trois, que tous les trois, le gouvernement de cet homme qui est là, la justice de ce même empereur, assis là et que nous touchons presque du coude, nous a traduit en police correctionnelle pour outrage aux mœurs. Ironique tout cela. Si l'ennemi commun a pour effet de raviver son sentiment de solidarité avec l'auteur de Bovary, Goncourt est capable aussi à l'occasion d'apitoiement quand le sort s'acharne sur Flaubert, par exemple lors de sa ruine. Je cite, c'est la citation numéro 20, des détails navrants sur ce pauvre Flaubert. Sa ruine serait complète et les gens pour lesquels il s'est ruiné par affection lui reprocheraient les cigares qu'il fume. Et sa nièce aurait dit, c'est un homme singulier que mon oncle, il ne sait pas supporter l'adversité. Ce sentiment de compassion réapparaîtra quand Goncourt, invité chez la nièce de Flaubert en juillet 1884, s'indignera du luxe de l'hôtel et pensera avec tristesse, je cite, c'est la citation 21, aux dernières années de ce pauvre Flaubert, complètement ruiné par ce couple fortuné et réduit à fumer des cigares à un sou. Goncourt, qui pourtant avait dans un autre passage cruellement épinglé, je cite, « la ressemblance bourgeoise de la cervelle de Flaubert avec celle de tout le monde », Goncourt donc aura d'autres raisons de s'indigner lorsqu'il lira certains articles, tel cet article de mars 1884 qui fait de Flaubert, je cite, c'est la citation 22, « un amateur ». Oui, un amateur, entendez-vous ? Et qui aurait pu avoir pour ex-aequo le premier garçon de bureau venu, soumis à son régime de travail. Et Goncourt de conclure par ces mots, où l'on sent l'inquiétude pour sa propre postérité littéraire, « Cet article me rend triste. Il n'y a donc pour un grand écrivain, même quand il est mort, jamais de consécration, de sans les respects et écartant les blasphèmes. » Cette tristesse devant la dénégation du génie de Flaubert n'empêchera pas Goncourt, un an et demi après, d'être, je cite, c'est la citation 23, donc d'être empêché de dormir toute une nuit par un article très admiratif qu'il a lu d'Hennequin sur Flaubert. Et Goncourt de conclure avec rage, dans des mots qui rappellent précisément les jugements de l'article qu'il avait rendu triste quelque temps plus tôt, car Flaubert a tout ce que l'application enragée donne de talent, mais il ne rencontre jamais le au-delà. Il ne surprend jamais par l'imprévu, par l'inattendu de l'imagination de génie. Ce n'est au fond qu'un fort anthème, un fort anthème tout à fait supérieur, mais rien de plus. Et je suis persuadée que dans 50 ans, il sera jugé comme je le juge ici. En l'étudiant sans religion, on verra que les choses déjà faites, il les a faites avec plus de patience, avec plus de ténacité, avec plus de sueur, mais qui n'a jamais travaillé que dans le vieux et n'a rien, absolument rien apporté à la littérature du siècle. Sans commentaire. Ainsi, comme dans les alliances diplomatiques, le sentiment si fort de solidarité d'artistes contre un ennemi commun tend à s'étioler quand cet ennemi disparaît. C'est notamment pour cette raison que les relations des Goncourt avec Flaubert ressemblent parfois plus, à mon avis, à des relations de fraternité qu'à des relations d'amitié. Comme des frères font bloc dans un sentiment d'intense solidarité contre l'ennemi de l'extérieur qui s'en prend à la famille, mais n'hésite pas à se déchirer quand cet ennemi n'est plus là, les Goncourt, si solidaires de Flaubert contre des ennemis de l'extérieur, en particulier tous les faux artistes vendus au capitalisme, ne craignent pas de tomber à bras raccourcis sur leur confrère normand quand cet ennemi, cet intrus dans la liste des artistes purs, est inexistant. Dans leurs relations telles qu'elles sont évoquées par le journal, on pense aussi fortement aux analyses de René Girard sur le désir triangulaire et sur la rivalité. Quand le médiateur, celui qui suscite le désir, est très éloigné, la jalousie n'est pas très vive, par exemple quand les Goncourt évoquent Victor Hugo. En revanche, plus le médiateur est proche, plus la rivalité est passionnelle, violente et douloureuse. Les Goncourt éprouvent, me semble-t-il, à l'égard de Flaubert, un sentiment assez fort qui, par son ambivalence très sensible, mêlant l'affection et la haine, la complicité et la rivalité, l'admiration et une jalousie maladive, tient plus de la relation fraternelle que de la relation amicale. Ainsi, s'ils sont parfois contraints bien malgré eux de l'admirer, avouant, je cite, c'est la citation 24, qu'il en coûte encore plus de trouver du talent à ses amis qu'à ses ennemis, ils se vengeront ensuite de cette admiration involontaire par un dénigrement impitoyable distillé dans l'intimité de leur journal. À côté de moments forts de partage et de complicité, ainsi, lorsqu'après une réception donnée par les Goncourt, ils se retrouvent à trois, je cite, alors c'est la citation 25, « lui arpentant le tapis, cognant de sa tête la boule du lustre, débordant, se livrant comme avec des frères de son esprit ». Donc, à côté de ces moments de partage, il y a des moments de froid. Les Goncourt parlent même de glace subitement tombée entre Flaubert et eux lorsque Sainte-Beuve leur promet un article sur la femme au XVIIIe siècle, alors qu'il n'en a pas encore consacré un à Salammbô paru récemment. Donc, il y a des moments de glace, de tension, de non-dit délétère, bref, beaucoup de remous sous le calme de surface et un très intense sous-texte aux protestations d'amitié. Ajoutons que parfois, leurs relations communes ne se sont pas privées d'attiser les mésententes, les incompréhensions, les rivalités et les jalousies qui couvaient entre eux et qui n'en avaient vraiment pas besoin. Un exemple parmi d'autres, leur ami Louis Passy, qui s'empresse de faire connaître au Goncourt l'article de Sainte-Beuve sur Madame Bovary. Je cite, c'est la citation 27. « Louis est venu nous voir ce matin, nous apprendre le grand article de Sainte-Beuve sur Madame Bovary, empressé comme un ami qui vient vous apprendre un petit embêtement. S'est longuement étendu sur l'importance d'un pareil article et n'ayant pas le tact assez fin pour comprendre que nous avions parfaitement compris et que le coup avait parfaitement porté, a fini par nous dire en appuyant « c'est un article comme j'aurais voulu vous en voir un ». Ainsi, éperonné par les semeurs de zizanie dont le tout petit monde littéraire et mondain est rempli, la jalousie des Goncourt à l'égard de Flaubert, mais aussi tout bonnement leur incompréhension et leur réprobation à l'égard de certains aspects de sa personnalité, les pousse à l'attaquer férocement dans un grand nombre de passages du journal. Toutes ces attaques, ces piques lancées à l'endroit de l'homme Flaubert, tournent autour d'un motif central, l'idée que l'homme Flaubert ne serait pas à la hauteur de son œuvre, ce que résume la formule du 23 mars 1862, faisant allusion à Madame Bovary, Flaubert, exemple frappant de l'infériorité de l'homme comparé à son livre. Et j'arrive ainsi à ma deuxième partie. Cette idée que la personne de Flaubert ne serait pas à la hauteur de l'œuvre est l'axe de leur critique à l'égard de l'homme Flaubert. Mais cette idée elle-même se précise. Si l'homme Flaubert n'est pas au niveau de l'œuvre, c'est que l'homme est et demeure fondamentalement provincial. Flaubert, je le définirais d'un mot, un homme de génie de province, lance les Goncourt en décembre 1862. Cette idée de provincialisme fait le fond de toute ou de presque toute leur critique adressée à la personne de Flaubert. Mais cette idée elle-même se décline en plusieurs thèmes. Le premier de ces thèmes associés au provincialisme est l'idée de grossièreté, de manque d'éducation, d'absence d'us. Le provincial est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine, le butor qui, ignorant les codes de la sociabilité parisienne et du savoir-vivre, fracasse tout sur son passage dans la joie et la bonne humeur, si j'ose dire, en tout cas dans l'inconscience la plus totale. Il n'est guère nécessaire sans doute de citer tous ces passages du journal très connus qui stigmatisent l'impolitesse de Flaubert, ce « sauvage normand », sa grossièreté, son absence de tact due à un provincialisme incurable, pour reprendre un adjectif employé par les deux frères dans un passage où Flaubert est visé implicitement. Je cite, c'est la citation 31, « Le provincialisme est incurable. On a beau chercher à s'en guérir en se jetant du côté opposé dans l'horreur du bourgeois, on s'enfonce de ce côté-là même dans le provincialisme. » Ce provincialisme se manifeste particulièrement dans l'ignorance de l'art de la conversation, art essentiellement parisien et dont on a vu précédemment combien il est cher aux deux frères. Flaubert, mal élevé et égocentrique, ne maîtrise pas cet art du jeu en équipe, cet art de saisir adroitement la balle au bon et de la renvoyer avec grâce, sans rien qui pèse ou qui pose. L'absence de mesure et de bon goût dont témoigne son attitude au milieu d'une compagnie caractériserait, selon les Goncourt, les gens de province. On pourrait définir le provincial, l'homme qui n'a ni la mesure ni la propos, généralise-t-il ainsi à partir de Flaubert, lequel du reste se surnomme lui-même, on le sait, l'excessif dans un certain nombre de ses lettres. Cet excès, cette absence de tact, de finesse, rendrait la conversation, ou faut-il plutôt dire les soliloques de Flaubert, particulièrement indigestes. Ainsi en témoigne un passage de janvier 1864, c'est la citation 32. Flaubert, qui est verbeux ce soir encore un peu plus que d'habitude et qui lance ses paradoxes non avec la légèreté de jongleur indien de Gautier, mais qui les tient péniblement en équilibre comme un Hercule de foire ou plutôt et simplement comme un provincial outré, affirme que le coït n'est pas du tout nécessaire à la santé de l'organisme, que c'est un besoin que notre imagination crée. Mais ce qui est désolant pour les Goncourt, c'est que le provincialisme est un virus hautement contagieux. Celui de Flaubert, par exemple, contamine le salon de la princesse Mathilde. Je cite « Vraiment, Sainte-Beuve fait défaut au salon de la princesse. L'idée s'y abaisse, la voix y grossit. Et Flaubert, qui s'y épate, en fait un salon de province. À toute histoire qu'on raconte, on peut être sûr d'avance qu'il va dire, l'histoire finie ou même non finie, « Oh, j'en sais une plus forte !» Et à toute personne qu'on nomme, moi je la connais mieux que vous. Grosse, décidément bien grosse nature. Cette grosseur et cette grossièreté, cette épaisseur du provincial n'est pas que morale et relationnelle. Elle est aussi la conséquence d'un corps trop sain, d'un corps trop vigoureux, trop reposé, trop repu. Car la province se définit pour les Goncourt en particulier comme un espace où le corps, mal à l'aise, négligé, sursollicité nerveusement à Paris, où on dort trop peu et trop mal, où l'on mange mal quand on n'oublie pas carrément de se nourrir, où la fébrilité ambiante ne permet jamais de véritable détente, donc un espace où le corps se déploie, prend ses aises, se met à la première place. Dans une perspective profondément balzacienne, la province est perçue symboliquement par les Goncourt comme l'espace où l'on fait des réserves d'argent et des réserves de santé, de vie, de vigueur. Et c'est tout plein de ces réserves de santé que Flaubert tombe à Paris, exhibant sans le moindre respect humain une robustesse insolente qui semble, comme dans un système de vases communicants, profiter de la misère physique de ses confrères, en particulier des confrères parisiens. Je cite, et c'est la citation 34, Flaubert est venu nous voir ce soir, florissant de force, de santé, plus exubérant que jamais. Il nous parle de la maladie mortelle de Bouillet avec une insouciance de pléthorique, nous blessant par la manière leste et détachée dont il nous console et nous réconforte. Et en s'en allant, le gros homme s'écrie. C'est étonnant. Moi, il me semble dans ce moment que j'hérite de la vigousse de tous mes amis malades. Or, et c'est là que les natures souffreteuses, je cite, c'est la citation 35, les natures souffreteuses, torturées de malaise continu, douloureux, trouvent leur revanche, cette trop bonne santé du corps serait en raison inverse du talent d'un artiste, en particulier parce qu'elle anesthésierait la sensibilité et la priverait de son acuité. La maladie, c'est là un motif obsessionnel et très connu chez les Goncourt, en particulier la maladie nerveuse, affinerait la sensibilité et agrandirait l'imagination et serait ainsi l'allié irremplaçable de l'artiste, en tout cas de l'artiste moderne. Les Goncourt, on le notera en passant, n'ont pas été les seuls à être irrités de la robuste santé de Flaubert. On trouve sous la plume d'un Barbey d'Orvilliers en 1869 un reproche analogue. Évoquant l'histoire de Frédéric Moreau, Barbey commente, c'est la citation 36, « C'est du Murger sans la grâce pulmonique de Murger, sans la mélancolie d'un être qui doit bientôt mourir. Monsieur Flaubert n'a ni grâce ni mélancolie, c'est un robuste qui se porte bien. » C'est un robuste dans le genre du Courbet des baigneuses qui se lavent au ruisseau et qui le salissent. Ce déficit de sensibilité et d'imagination lié à une trop bonne santé pourrait expliquer partiellement, parce qu'il susciterait un certain complexe, le complexe de manquer de ressources artistiques vraiment personnelles, un autre trait de Flaubert que les Goncourt relient à son provincialisme. Son esprit d'affectation, le besoin constant de jouer un rôle, d'interposer son personnage social entre les autres et la personne qu'il est vraiment. Le reproche de vouloir poser à tout prix est en effet l'un des plus récurrents sous la plume des Goncourt lorsqu'ils évoquent Flaubert. Je cite, citation 37, « Plein de paradoxes, ces paradoxes sentent comme sa vanité la province. Ils sont grossiers, lourds, pénibles, forcés, sans grâce. Il a le cynisme sale. Sur l'amour dont il cause souvent, il a toutes sortes de thèses alambiquées, raffinées, des thèses de parade et de pose. Au fond de l'homme, il y a beaucoup du rhéteur et du sophiste. Il est à la fois grossier et précieux dans l'obscénité. » Cette affectation de Flaubert apparaît même dans les moments les plus déboutonnés, si j'ose dire, de la conversation. Par exemple, lors d'un dîner des cinq, où les convives font assaut de confidences salaces, confidences que synthétise Goncourt non sans un certain humour, et c'est la citation 38. Résumons. Tourguenieff est un cochon dont la cochonnerie est teintée de sentimentalisme. Zola est un cochon grossier et brut, dont la cochonnerie se dépense maintenant tout entière dans la copie. Daudet est un cochon maladif, avec les foucades d'un cerveau chez lequel un jour pourrait bien entrer la folie. Flaubert est un faux cochon, se disant cochon et affectant de l'être pour être à la hauteur des cochons vrais et sincères qui sont ses amis. Et moi, je suis un cochon intermittent avec des crises de salauderie qui ont l'exaspération d'une chair mordue par l'animalcule spermatique. On le voit, malgré le ton badin de ce passage, Flaubert, selon les Goncourt, avancerait masqué et ne mettrait jamais bas son masque, même avec ses amis, même dans les moments d'abandon. Flaubert, au fond, joue et souvent surjoue à être Flaubert. Il semble prisonnier de son personnage, comme dans sa jeunesse, il était peut-être déjà prisonnier du garçon, figé dans un rôle, dans une posture qu'il ne parvient jamais à quitter, même auprès de ses plus vieux amis. Malgré la relation forte qui les unit, il ne permet pas aux Goncourt de combler ce rêve de cœur à cœur dans l'amitié qui semble les avoir habités, cœur à cœur dans l'amitié mais non dans l'amour auquel ils n'ont jamais cru. Rêve qui, semble-t-il, a dans une certaine mesure été davantage réalisé par leur relation avec Gavarni et avec Gautier, et plus tard pour Edmond avec Daudet. Dans le cas de Flaubert, dès le début de leur relation, les Goncourt ont senti les limites de leur amitié. Je cite, c'est la citation 39, « Au fond, cette nature franche, loyale, ouverte, furieusement épanouie, manque de ces atomes crochus qui mènent une connaissance à l'amitié. Nous nous trouvons au même point que le premier jour où nous l'avons vu, note le journal en février 1860, soit environ 3 ans après leur première rencontre. » Et Edmond semble avoir eu jusqu'au bout le sentiment qu'il ne connaissait pas vraiment Flaubert, qu'il n'avait pas accès à la personne qu'il était vraiment derrière le personnage. Quelle que soit leur inconnaissance, plus que leur méconnaissance de Flaubert, les Goncourt ont perçu ou cru percevoir en lui, et nous arrivons ici à un autre ordre de reproche, mais lui aussi relié au provincialisme, donc ils ont cru percevoir en lui un orgueil démesuré, un égo surdimensionné et un besoin narcissique de tout ramener à lui. Cet orgueil est en lien avec le provincialisme dans la mesure où il s'épanouit d'autant plus que les contacts sociaux sont plus limités, que les relations humaines sont plus restreintes et que l'on a moins à se frotter à l'ego des autres. Toute muse du département, tout grand homme de province voit normalement son ego dégonfler cruellement dans la capitale où la comparaison généralisée le renvoie à son insignifiance. Mais aucune normalité ne saurait s'appliquer à Flaubert. Ce narcissisme de Flaubert est sans doute l'aspect de sa personnalité qui a le plus irrité les Goncourt. Il passerait sans doute, avec une légère condescendance, sur sa grossièreté et son ignorance des codes parisiens qui instillent en eux un si agréable sentiment de supériorité. Mais la forte conscience que Flaubert a de son génie et de sa place centrale dans le champ littéraire, conscience qui s'est naturellement accrue au fil du temps, les a, en réduisant automatiquement leur part du gâteau, si j'ose dire, exaspérés. On perçoit particulièrement cette exaspération au moment de la publication de Salammbô, lorsque la rivalité jusque-là souterraine de Flaubert avec Hugo éclate selon eux au grand jour, par exemple dans ce récit du 6 décembre 1862, c'est la citation 40. Au reste, l'orgueil se montrait à jour, il nageait dans sa vanité. Il y avait Salammbô et c'était tout. Autour, tout avait disparu. Le Normand par moments éclatait. Il parlait d'envoyer des huissiers à un journal qui avait tronqué une citation de lui. Et il parlait à cœur ouvert et librement d'Hugo comme d'un concurrent qui n'avait plus aménagé. Il secouait toute politesse envers ce dieu passé, fini, éteint, mort sous lui. Ainsi, Flaubert ne reste pas à la place qui serait la sienne de toute éternité. Le petit clan des artistes purs et maudits, des artistes privés de gloire et de toute forme de succès financier, mais il oserait se placer au niveau des plus grands, des dieux vivants de la littérature. Il oserait, en somme, prétendre au succès. La rivalité girardienne, si j'ose dire, toujours plus ou moins latente entre les Goncourt et Flaubert, s'affiche maintenant clairement. Un symptôme de cet égo surdimensionné de Flaubert serait le prix qu'il accorde à ses manuscrits, par exemple au manuscrit de l'éducation sentimentale dont il fait faire une copie pour l'envoyer à l'éditeur. Car, explique les Goncourt, eux qui ont brûlé la plus grande partie de leurs manuscrits, si l'on en croit notamment une indication d'Edmond en février 1884, je cite les Goncourt, citation 41, « Avec une sorte de religion, il garde devant lui, depuis qu'il écrit, le monument immortel de sa copie chirographe. Ce garçon-là met une solennité un peu ridicule aux plus petites choses de sa pénible ponte. Décidément, chez mon ami, nous ne savons ce qu'il y a de plus gros, de la vanité ou de l'orgueil. » il est curieux de rencontrer là encore, sous la plume d'un barbé d'Ovidi, dans son article du Constitutionnel du 29 novembre 1869 sur l'éducation sentimentale, la même accusation, en plus développée et plus cruelle encore. Évoquant, je cite, les badauds de la plume, qui se sont agenouillés par avance comme les rois mages devant la crèche de l'enfant Jésus, devant la boîte qui renfermait le manuscrit de M. Flaubert, Barbet explique, c'est la citation 42, car M. Flaubert a inventé une boîte pour son manuscrit. Et par ce temps de bibelonnier, c'était là une idée. À défaut d'un autre, il aura toujours eu ce génie. On l'appellera désormais l'homme à la boîte en littérature, et ce sera une distinction. Du reste, quand on a des entrailles d'auteur, on comprend très bien ce soin tabernaculaire de son ouvrage. Lorsqu'on accouche que tous les 7 ans, avec peine, on a le temps, et on le prend, de capitonner et d'orner le berceau dans lequel on va déposer son petit. On le voit, l'accusation à peine voilée d'idolâtrie, d'auto-idolâtrie plus précisément, fait le fond de la satire chez Barbet comme chez les Goncourt. L'accusation d'hubris, d'orgueil démesuré portée par les Goncourt à l'égard de Flaubert, se double d'une accusation de mauvaise foi et d'esprit retors par laquelle le provincialisme de Flaubert se nuance en normandisme. Flaubert, sous ses dehors grossiers d'ours mal léchés, serait habité d'un esprit rusé spécifiquement normand. Ainsi, Jules note-t-il dans un passage amusant du journal que, je cite, « c'est un normand que Flaubert. Il m'a avoué qu'il disait à Sainte-Beuve qu'il ne baisait pas pour ménager sa jalousie. » Cette rouerie native, Flaubert la mettrait au service de son arrivisme, un arrivisme très provincial qui dément toutes ses protestations de désintéressement. Je cite, c'est la citation 44, « Il y a du normand et du plus matois et du plus renfoncé au fond de ce garçon si ouvert d'apparence, exubérant de surface, la poignée de main si large, faisant avec tant d'éclat fi du succès, des articles, des réclames, et que je vois souterrainement accepter le bruit, les relations, travailler son succès comme pas un, et se lancer, avec des allures modestes, à une concurrence face à face avec Hugo. » Derrière son image d'artiste solitaire, d'artiste maudit, Flaubert manœuvrerait ainsi très habilement pour assurer le succès de son œuvre. Il serait donc traître à la cause des quelques artistes purs, à jamais éloignés de la réussite. Parmi ses manœuvres pour réussir, Edmond Goncourt ironise sur la façon qu'aurait Flaubert, ce legrandin avant la lettre, de violer les célébrités dans l'espoir de recueillir quelques bénéfices de leur fréquentation. Ainsi, le 18 janvier 1878, Edmond raconte-t-il, rageur, après un dîner offert par les charpentiers aux notabilités républicaines, c'est la citation 45, le dîner terminé, Flaubert emporte pour ainsi dire Gambetta dans un salon, dont il referme la porte sur lui. Demain, il pourra dire Gambetta, c'est mon ami intime. Elle est vraiment étonnante, l'action qu'exerce sur cet homme toute notoriété. Quel besoin il a de s'en approcher, de s'y frotter, de violer son intimité. Et notez que ce serait de même avec un marchand de cirage célèbre ou un dentiste cosmopolite. Des années plus tôt, Flaubert faisait déjà tout, à en croire les Goncourt, pour monopoliser l'attention de la princesse Mathilde lors de ses réceptions. Je cite, c'est la citation 46, « J'étudie chez la princesse le curieux travail de Flaubert pour attirer l'attention de la maîtresse de la maison, se faire voir, se faire parler, et cela par l'obsession des regards, des mines, des poses. Je sens dans tout cet homme le besoin qui va jusqu'à la souffrance d'occuper, de violer l'attention et de la tenir à lui seul. Et je ris en moi de voir un gros blagueur de toutes les gloires humaines être si brutalement affamé de glorioles bourgeoises. » On le constate, le procès fait à la personne de Flaubert dans l'intimité du journal est impitoyable autant que récurrent. Mais la cruauté des attaques faites à l'encontre de la personne de Flaubert au motif qu'elle ne rendrait pas justice à l'œuvre ne signifie pas pourtant que celle-ci soit complètement épargnée. Et j'arrive enfin à ma troisième partie, qui, rassurez-vous, sera la plus courte. Même si les jugements portés sur l'œuvre sont moins durs, moins entiers et moins systématiques que les jugements sur la personne de Flaubert, il n'en demeure pas moins qu'il suscite d'importantes réserves et, à l'occasion, quelques propos fielleux de la part des deux frères. Tout d'abord, les Goncourt n'ont jamais, mais vraiment jamais, compris la façon de travailler de Flaubert. Jugeant d'après ce qu'ils étaient eux-mêmes et d'après leur propre façon de travailler, ils se sont gossés des lectures gargantuesques, des recherches encyclopédiques de Flaubert et des volumes avalés pour vérifier un détail. Ils n'ont pas perçu ou pas voulu percevoir que pour l'auteur de Salammbô, la composition d'un livre n'est qu'une manière de vivre, que l'érudition n'est là que comme tremplin à la rêverie, que le détail technique vaut par la force visionnaire qu'il permettra de déployer. Maintenant, si l'on en vient à l'œuvre elle-même, hein, et non plus à la façon de travailler, une première réserve concerne la primauté accordée par Flaubert au travail de la forme et en particulier à l'écriture. Ce reproche, on dira, ne manque pas de sel quand on pense que les Goncourt se sont voulus les inventeurs de l'écriture artiste et ont parfois prôné un roman tellement artificialisé qu'il n'en est presque plus du roman. Mais jamais à court de paradoxe, ils estiment que Flaubert va trop loin dans cette voie. Cette question de la primauté de la forme, notamment du style, apparaît, il est intéressant de le relever, dès la première mention de Flaubert dans le journal, lorsque Jules rapporte le mot de Flaubert que Gautier, rencontré au bureau de l'artiste, leur a cité. De la forme naît l'idée. Et la même question revient dans le passage où les Goncourt, relatant ce qui semble leur première rencontre avec Flaubert en personne à l'artiste le 11 avril 1857, se croient tombés en pleine querelle byzantine sur le sexe des anges. Je cite, c'est la citation 48, « Grande discussion sur les métaphores ». À la suite de quoi, une terrible discussion sur les assonances, une assonance au dire de Flaubert devant être évitée quand on devrait mettre 8 jours à l'éviter. Puis, entre Flaubert et Feydeau, 1000 recettes de styles et de formes agitées, de petits procédés à la mécanique, emphatiquement et sérieusement exposés, une discussion puérile et grave, ridicule et solennelle, de façon d'écrire et de règles de bonne prose. Tant d'importance donnée aux vêtements de l'idée, à sa couleur et à sa trame, que l'idée n'était plus que comme une patère à accrocher des sonorités et des rayons. Il nous a semblé tomber dans une discussion de grammairien du bas empire. Ces questions d'écriture, de style, ont à l'évidence été un terrain d'émulation entre les Goncourt et Flaubert, émulation qui vire souvent à l'aigreur chez les Goncourt, en tout état de cause chez Edmond, qui des deux frères a peut-être été le plus soucieux, le plus obsédé d'originalité, le plus préoccupé de poser une signature absolument unique sur ses œuvres. On le voit dans un passage où il s'irrite après la mort de Flaubert, de la lettre de ce dernier à Sand de fin décembre 1875, où Flaubert se démarque très nettement de ses confrères écrivains, notamment des Goncourt, et se présente comme le seul écrivain de son cercle éperdument en recherche de la beauté. Alors je cite la lettre de Flaubert à Sand, c'est la citation 49. « À propos de mes amis, vous ajoutez mon école. Mais je m'abîme le tempérament à tâcher de n'avoir pas d'école. Je regarde comme très secondaire le détail technique, le renseignement local, enfin le côté historique et exact des choses. Je recherche par-dessus tout la beauté dont mes compagnons sont médiocrement en quête. Je les vois insensibles quand je suis ravagée d'admiration ou d'horreur. Des phrases me font pâmer qui leur paraissent fort ordinaires. Goncourt, par exemple, est très heureux quand il a saisi dans la rue un mot qu'il peut coller dans un livre. Et moi, très satisfait quand j'ai écrit une page sans assonance ni répétition. Je donnerai toutes les légendes de Gavarni pour certaines expressions et coupes des maîtres comme « l'ombre était nuptiale, auguste et solennelle » du père Hugo. » Cette lettre agace prodigieusement Edmond, qui commente avec amertume la prétention de Flaubert d'être seul sensible aux épithètes. Et je cite, c'est la citation 50. « Il oublie qu'il m'a entendu bien des fois proclamer mon admiration pour des épithètes comme « nudité intrépide » de Michelet, comme « gambade rêveuse » de Hugo. Et c'est curieux que ce reproche de sa plume s'adresse à moi qui ai dit dans « Idées et sensations », un livre à lui dédié par parenthèse, qui ai dit que c'est avant tout à l'épithète et à l'épithète du caractère de celle qu'il cite que se reconnaît le grand écrivain. Le drôle de cela, c'est qu'au grand jamais il n'a pu décrocher une de ses osées et personnelles épithètes et qu'il n'a jamais eu que les épithètes excellemment bonnes de tout le monde. Moins acrimonieuse, mais non moins perplexe, donc après ces questions relatives au style, les réflexions concernant la très grande présence des objets, des choses dans le roman flaubertien, présence qui se ferait au détriment des sentiments, des émotions, de ce que les Goncourt appellent parfois le cœur dans le roman. J'arrive ainsi à un deuxième reproche concernant l'œuvre de Flaubert. On le voit ainsi dans ses lignes de janvier 1861 au sujet de Madame Bovary. C'est la citation 51. Nous apercevons ce qui manque à Flaubert, le défaut que nous cherchons depuis longtemps. Son roman manque de cœur, de même que ses descriptions manquent d'âme. Le cœur dans le talent, un don bien rare, qui ne compte guère en ce temps que Hugo en haut, Murger en bas. Et quand je parle du cœur dans le talent, je ne parle pas du cœur dans la vie, qui est parfois à l'opposé. Ce cœur dans le roman les Goncourt semblent l'avoir perçu davantage dans les œuvres de jeunesse de Flaubert, peut-être parce que l'influence de Chateaubriand, dont on sait combien il est cher aux deux frères, y est plus sensible. Ils ont ressenti ainsi une certaine admiration pour Novembre, que Flaubert leur a lu à Croisset le 1er novembre 1863, toute la journée, je cite, c'est la citation 52, sans se reposer, d'une voix tonnante, avec des éclats de voix de théâtre de boulevard. Et le journal de noter, il y a dans le jeune homme beaucoup de Flaubert, désespérance, aspiration, mélancolie, misanthropie, haine des masses. Tout cela, sauf le dialogue qui n'existe pas, est d'une puissance étonnante pour son âge. Il y a déjà là, dans le petit détail du paysage, l'observation délicate et charmante de Madame Bovary. Le commencement de ce roman, une tristesse d'automne, est une chose qu'il pourrait signer à l'heure qu'il est. En un mot, cela, malgré ses imperfections, est très fort. Mais s'ils éprouvent ainsi une certaine admiration pour ses œuvres de jeunesse, l'évolution ultérieure de Flaubert et l'empiètement de plus en plus important des choses sur les sentiments suscitent leur incompréhension. D'un certain côté, c'était, dira-t-on, assez bien vu. Jamais les choses, même chez Balzac, n'ont eu autant de place auparavant que dans le roman flaubertien. Insensible à la façon dont Flaubert faisait parler les objets, au fait que chez lui, les objets sont une langue, pour reprendre les mots célèbres de Claude Duchet, les Goncourt ne perçoivent dans la description des choses qu'un obstacle à l'expression des émotions et des sentiments, et non des moyens indirects de les signifier. Le troisième grand reproche adressé à l'œuvre de Flaubert, par lequel on rejoint d'ailleurs le grand grief de provincialisme déjà adressé à l'homme, est celui de manquer d'originalité vraie, et pour pallier ce manque, de ne pas reculer ni devant la recherche de sujets alambiqués et tapageurs propres à épater le bourgeois, ni même à l'occasion devant le plagiat. De nombreux passages stigmatisent ainsi l'absence d'originalité, l'absence de personnalité de l'œuvre de Flaubert, l'originalité, la personnalité qui est sans doute la valeur majeure aux yeux des Goncourt. C'est un véritable leitmotiv de tous les passages concernant Salammbô, par exemple dans cette pique lancée le 27 décembre 1862, et qui résonne assez ironiquement quand on pense à la poétique de Flaubert et à sa célébrissime formule « Yvetot vaut Constantinople ». Je cite les Goncourt, c'est la citation 53. « L'originalité n'est pas d'aller chercher de l'originalité à Carthage, mais à côté de soi. » Il y a là-dedans du provincial, comme aller en Orient pour étonner les Rouennais. Plus tard, Edmond aura aussi vite fait de dépouiller la tentation de Saint-Antoine de son originalité de surface pour y découvrir le cliché. C'est la citation 54. Ce qu'il y a de plus grave là-dedans, c'est que je ne trouve pas d'originalité dans cette œuvre qui va être trouvée si originale. Flaubert, en malin qu'il est, a choisi depuis quelques années les milieux les plus colorés, les plus excentriques, les plus carthaginois, les plus épatants pour les bourgeois. Mais sous le décor et le costume, son humanité est diantrement poncive. Il n'y a pas chez lui la fantaisie abracadabrante d'un poète achiché ou la retrouvaille psychologique d'un voyant dans les humanités mortes. En un mot, il n'y a pas d'invention personnelle, mais une appropriation intelligente, réfléchie. De l'originalité, non, encore une fois, non. L'originalité ne consiste pas à faire du commun avec de l'original, mais de l'original avec du commun. De l'originalité dans l'orientalisme de Flaubert? Encore non, tout au plus de l'ingéniosité laborieuse et appliquée. Ce serait donc pour remédier à son absence d'originalité foncière que Flaubert aurait recours à des sujets criards et tapageurs propres à épater la galerie. Dans le même but, remédier à son absence d'imagination, Flaubert n'hésiterait pas à avoir recours au plagiat. Cette accusation revient à plusieurs reprises dans le journal, et de plus en plus fréquemment à mesure que l'œuvre de Flaubert, après la mort de l'homme, est plus connue. C'est le cas notamment lorsqu'Edmond Goncourt découvre dans le journal des journaux chez Daudet, le 14 avril 1887, la nouvelle de Barthélemy Maurice, les deux greffiers, qui a constitué le point de départ de Bouvard et Pécuchet, et qu'il formule cette conclusion perfide. C'est bien curieux que Flaubert n'ait pas été arrêté par la prévision qu'un jour ou l'autre, cette espèce de plagiat serait découvert. Goncourt et Daudet reviennent quelques années après sur le sujet, et Henri Séard d'ajouter une pièce au procès en plagiat en avançant, je cite, que le candidat est tiré absolument d'une journée d'élection par Leuze-Marnisia, qu'il s'y trouve tout, même le journaliste romantique. Goncourt et Daudet décèlent aussi dans la tentation de Saint-Antoine un plagiat du second Faust de Goethe, dont Léon Daudet leur faisait la lecture, et Goncourt d'ironiser, « Vraiment, il a eu la mémoire bien plagiaire, mon pauvre ami. » Il n'est pas jusqu'à l'écriture de Flaubert que Goncourt, déformant un article d'Albala sur l'influence de Chateaubriand, n'accuse, je cite, d'une descendance trop directe de la langue de Chateaubriand, une descendance ressemblant trop à un plagiat. Et j'arrive enfin à ma conclusion. Dans une lettre à Tourguenieff du 22 décembre 1878, Flaubert se confie ainsi. Aucune nouvelle des amis. Ah, mon pauvre vieux, la providence, ou ce qu'on nomme ainsi, me fait avaler de jolis crapauds. J'ai eu des coups de massue et des coups d'épingle, jusqu'à Charpentier qui préfère à ma littérature celle de Sarah Bernhardt. S'il avait su les jolis crapauds, les coups de massue et coups d'épingle que lui prodiguaient tour à tour les Goncourt dans l'intimité de leur journal, le solitaire de Croisset, malgré son stoïcisme, ne s'en serait peut-être pas remis. Avouons-le, même si cet aspect de leur journal a été autrefois exagérément mis en lumière, il y a un peu du serpent chez les deux frères, comme l'avait pressenti Sainte-Beuve, si l'on en croit un passage assez amusant du journal de février 1863. Je cite, « Sainte-Beuve, quand il nous échappe un mot vif ou méchant, nous regardons un peu comme des serpents. Il nous donne la main doucereusement, mais avec une sorte de réserve. Les mots vifs ou méchants sur Flaubert ont-ils vraiment échappé à leur plume pressée de rendre compte de l'ondoyante humanité dans sa vérité momentanée, selon les mots de la préface que je citais en introduction? Toujours est-il que, comme tous les jugements portés sur les autres, ces mots des Goncourt en disent peut-être moins sur leur objet que sur eux-mêmes. Ils en disent beaucoup, en tout état de cause, sur la situation de compétition où ils se trouvaient de fait avec Flaubert, ainsi que sur le sentiment de rivalité qu'ils éprouvaient. Il y a, avouons-le, un peu de la lutte du moucheron contre le lion dans leurs attaques acharnées contre Flaubert. Mais la virulence des critiques atteste la profondeur de leur sentiment de rivalité, la difficulté de maintenir l'amitié dans un contexte concurrentiel et semble donner raison à la maxime désenchantée d'un autre journal, celui de Jules Renard, « Il n'y a pas d'amis, il y a des moments d'amitié ». Je vous remercie.